Vous écoutez RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et tout de suite sur RTL, bienvenue en Corée du Sud. Bonjour Anthony Dufour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Ravi de vous accueillir dans notre émission. Vous êtes journaliste et vous avez vécu 7 années en Corée. C'est un pays qui vous fascine, qui vous passionne et ça tombe bien parce que nous aussi on est très curieux. C'est une culture vraiment très différente de la nôtre. On a beaucoup de choses à apprendre. D'autres qui vont nous faire un peu, peut-être, qui vont nous faire un petit peu peur. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous a offert déjà? On va commencer par ça. Quand vous avez emménagé en Corée du Sud, quand vous, évidemment, vous pendez votre crémaillère, vous invitez quelques amis, vous êtes installé, je pense, avec votre femme qui est coréenne
tout
également.
À fait.
Et là, ça sonne à la porte, vous ouvrez.
Oui, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs. J'ai eu plusieurs
pas
sacs.
Pas femme, d'accord.
Non, sac. C'est un autre rôle, c'est un autre problème, on y viendra peut-être plus tard.
Ah non.
Mais j'ai eu plusieurs lots de papier toilette. C'est-à-dire que vous avez des invités qui rentrent pour vous saluer, pour venir manger avec vous, ils vous amènent un grand papier. Pas emballé, hein. Vous avez du papier toilette qu'on peut aller chercher dans 24 rouleaux, qu'on peut aller chercher au supermarché. J'en ai eu plusieurs. Et c'est vrai que c'est la première fois, on se dit, c'est peut-être, il y a peut-être un gag, il y a peut-être une signification.
Une rumeur court sur mode d'hospitalité.
Et il y a une explication.
D'ailleurs, il y a une explication très rationnelle qui tient d'abord à la prononciation, c'est-à-dire la prononciation en coréen. Ça fait penser à ça va marcher, ça va bien aller. Donc la vie va bien aller.
Donc le mot papier toilette. Voilà. Quand on le prononce.
Exactement. D'accord. Il y a une explication phonétique et puis il y a une explication culturelle qui est que en Corée, comme au Japon, l'intérieur et l'extérieur, le domicile et le reste du monde, il n'y a pas que des différences physiques, il y a des différences psychologique, spirituel. Ce qui fait qu'une nouvelle maison, ça va devenir le nouvel intérieur, la nouvelle intimité de la famille. Et pour ça, elle doit être purifiée. Et donc, vous pouvez avoir aussi du détergent, de la lessive.
Enfin,
on peut vous offrir tout un tas de trucs qui ont rapport avec la pureté, avec le nettoyage, et notamment le nettoyage qu'on peut faire avec
et
le papier toilette.
Je pensais que le papier toilette, il y avait aussi un symbole de longévité,
voilà.
Parce que ça se
tout
déroule quand même.
Et il y a également ce symbole-là.
C'est un vrai philosophe, Thomas.
Non, c'est vrai, il y a également l'idée que ça va marcher longtemps, parce qu'on va pouvoir le dérouler longtemps. Et ça remonte, c'est ancestral, cette tradition-là. Dans les camps où ils habitaient, il n'y avait pas d'industrialisation quand le pays n'était pas moderne, on amenait du feu. C'est-à-dire que les voisins ou les amis ramenaient le feu de chez eux, et avec ce feu, ils allaient purifier le nouveau domicile. Donc, c'est très important. C'est aussi pour ça qu'on se déchausse. Pour aller dans un autre débat, c'est aussi pour ça qu'on se déchausse.
Il faut toujours se déchausser quand on rentre chez les gens.
On ne ramène pas l'extérieur à l'intérieur. Alors évidemment, c'est plus propre, hein, c'est aussi extrêmement pratique pour la ménagère, comme le papier toilette. C'est marrant d'ailleurs, comme il y a des aspects pratiques, des aspects utiles qui se mélangent à des aspects philosophiques à chaque fois.
Anthony Dufour, est-ce que c'est aussi parce qu'on mange encore sur des tables basses, par terre, quand on est quand on vit en Corée du Sud?
Oui, on a ni lit ni table, donc c'est un peu bizarre la première fois qu'on rentre dans une maison. Quand j'étais la première fois chez mes beaux-parents, ils ont fait l'acquisition d'un canapé pour moi, parce qu'ils voyaient bien que j'étais un petit peu gêné pour m'installer.
Mais c'est à même le sol sur le parquet, comme ça.
On est toujours à même le sol, et c'est un sol chauffant, ils appellent ça le hondol. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de sur les murs, tout le chauffage vient du sol, et donc on dort sur le sol. Alors on déroule. À l'origine, tout le monde était dans la même pièce. Hein. On déroule quelque chose, une espèce de tatami pour dormir, et puis qui est chauffé aussi. Donc ça peut être très chaud en plus. Hein. Donc vous avez 40 degrés derrière, c'est pas mal.
C'est pas mal au dos le tatami, c'est confortable.
Le premier jour, on trouve ça. Moi, je me suis dit, c'est formidable. Je vais faire ça.
Quelle belle vie.
Oh là là, magnifique. Ouais. Et au bout de 3 jours, j'étais à l'hôtel. Parce qu'il fallait un vrai lit avec un vrai sommier. Ouais. Et c'est la même chose avec s'asseoir par terre. Enfin, on comprend, il y a effectivement toute une philosophie, on est tous au même niveau, il y a quelque chose autour de ça. Et mes beaux-parents ont fait l'acquisition d'un canapé parce qu'ils voyaient bien que c'était plus possible.
Mais pas d'un lit, par contre, Anthony Dufour. Ça, le lit n'est pas entré chez vos beaux-parents.
Le lit rentre un petit peu chez les Coréens, notamment par les plus jeunes. C'est-à-dire que les plus jeunes qui... voilà, la Corée, c'est un pays qui évolue extrêmement vite.
On parle de la Corée du Sud, parce que c'est pas pareil, la Corée du Nord.
Tout à fait. Et la Corée du Sud, en 88, s'est ouverte au monde et est devenue un pays démocratique. Avant, les Coréens ne pouvaient pas sortir du pays. Un lit, ils n'en avaient jamais vu, ils n'en avaient pas besoin. Aujourd'hui, ils découvrent le monde et donc ils reviennent avec des habitudes, ils mangent différemment. Et donc, le lit commence à faire son entrée dans les foyers coréens.
Et bon, curiosités comme ça, oui, vous avez une idée. Ah, bah oui.
Bah oui, parce qu'on va parler de ce parc d'attractions sexuelles, Loveland.
Mais c'est trop tard, vous, votre mariage, il est consommé depuis longtemps, non?
Non, mais je pense aux jeunes Coréens. Je pense aux jeunes Coréens.
Parc d'attractions sexuelles. Elle a tout de suite des curieux.
RTL. Bonjour, Annyeonghaseyo, comme on dit ici. Cette semaine, je vous emmène en Corée du Sud afin de découvrir un peu plus en profondeur cette terre de contraste, comme Séoul, la trépidante capitale ultra connectée, cette mégalopole mégalopole regroupe à elle seule près de la moitié de la population du pays.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais la Corée du Sud, c'est également un territoire rural, des petits villages où le temps semble s'être arrêté.
La curiosité est un vilain défaut.
Je vous invite à comprendre ce qui fait l'identité de la Corée du Sud et quelles sont les particularités de ce pays six fois plus petit que la France.
On découvre la vie quotidienne des Sud-Coréens avec notre invité, le journaliste Anthony Dufour. Vous y avez vécu cette année avec une épouse coréenne, des beaux-parents coréens. Donc vous avez mangé par terre, dormi par terre, vous étiez poli comme un Coréen. D'ailleurs, j'ai l'impression que les Sud-Coréens, c'est un peu comme les Japonais. Il y a beaucoup de politesse, beaucoup de contraintes. C'est un peuple comme ça, très sage et très sérieux.
Alors, oui et non, c'est le feu et la glace. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un côté très codifié dans les rapports humains, c'est-à-dire un supérieur, un inférieur, un aîné, une femme. Enfin, chacun a un rôle et un nom, d'ailleurs un titre très particulier. Dans une famille coréenne française, vous avez les cousins, les cousines, les tontes et les tantes. Dans une famille coréenne, non, chacun a un nom particulier. La deuxième tante du troisième frère, qui est plus âgée que le deuxième frère, elle a un nom particulier.
Comme dans une hiérarchie, dans
exactement,
une entreprise.
Complètement, donc, comme dans une hiérarchie.
Et ça veut dire qu'on ne s'adresse pas de la même façon aux uns et aux autres, c'est ça.
Donc, ça a un côté très spontané, et moi je dis souvent latin, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on a ça fonctionne assez bien les relations. Au Japon, c'est parfois difficile de rentrer dans l'intimité des gens, de connaître des Japonais, d'avoir des amis japonais. En Corée, c'est assez simple parce qu'ils sont latins, ils aiment bien découvrir.
Comment ça, ils sont latins, les Coréens?
On va boire un coup, on va manger ensemble.
Donc c'est à la fois spontané, codifié et spontané.
Voilà. C'est à partir du moment où on rentre dans l'organisation, c'est-à-dire on rentre dans une famille, on rentre dans une entreprise, on rentre dans une communauté, dans un village, on doit respecter les règles qui s'imposent à la communauté et qui font que c'est un pays harmonieux. C'est un pays où il n'y a pas de violence, où c'est assez facile à vivre. Mais en même temps, il y a une volonté de découvrir, une soif et une force incroyable.
Alors, il y a en ce moment les députés qui discutent de l'assouplissement de la législation pour le travail de nuit, l'ouverture des commerces la nuit. C'est un vrai débat en France. Et en Corée, je pense qu'il est réglé depuis très longtemps.
Ah oui, là, c'est un pays qui ne dort jamais. C'est tout simple, c'est même fascinant. Et je pense que la meilleure manière de découvrir Séoul, c'est d'abord de le découvrir la nuit. Tout est 24 heures sur 24. Mais les gens ne dorment pas. Moi, je me demande des fois, on les voit la nuit, on les voit le jour, ils dorment jamais. Il y a une espèce d'énergie. Je pense même qu'il y a des études, des scientifiques qui ont fait des études sur comment c'est possible. Alors, il y a toute une pharmacopée traditionnelle. Quand vous allez dans les petites boutiques, vous savez, il y a les petits magasins, les petits convenience stores, qui a tous les coins. Il y a la même chose au Japon, qui sont ouverts évidemment 24 heures sur 24, tenus en général par une étudiante de 20 ans toute seule la nuit. Enfin, des choses qu'on
ne peut
pas imaginer.
Quoi dedans ?
Alors, il y a plein de... À l'entrée, il y a plein de petits bidons, de petites gélules, de petites boissons, etc., qui visent à compenser ça, à compenser le sommeil qu'on n'a pas eu, la cuite qu'on vient de prendre avec les collègues. Et donc, tout est prévu. Hein. Donc, c'est un business considérable.
Ça veut dire qu'on consomme beaucoup de drogue aussi en Corée du Sud ?
Zéro drogue. Alors, zéro drogue. Il y a eu la fille d'un dirigeant d'entreprise très, très important qui, ces jours-ci, vient de se prendre une année et demie de prison pour avoir fumé de la marijuana.
Et l'alcoolisme en Corée du Sud, ça existe ?
L'alcoolisme, on est dans l'un des trois pays qui consomment le plus d'alcool au monde par habitant. Là, l'alcoolisme, il est institutionnel et il est même recommandé. C'est-à-dire que je me souviens d'un article très intéressant quand il y avait deux leaders politiques qui ne pouvaient pas s'entendre du tout. Et il y avait un grand éditorial dans l'équivalent du Monde, un journal sérieux, etc., qui a dit on a l'explication. Ils n'ont jamais été se pinter la tronche ensemble. et du coup, ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent pas se parler. Et c'est vrai que c'est une manière de briser la glace, de briser le code et d'être capable de se parler au-delà de ces rapports très codifiés qu'on a.
Bon, on y va dans ce parc d'attractions sexuelles, là, Loveland,
parce que
des promesses, des promesses.
On y va. Alors, c'est quoi ce parc d'attractions Loveland, Anthony Dufour ? Ça se trouve où ? Et qu'est-ce qu'on y fait ?
Ça se trouve sur l'île de Jeju. Alors, on n'y fait pas grand-chose, on regarde avant tout.
Ouais.
On a des sculptures, je crois qu'il y a une soixantaine de sculptures au moins, qui ont été d'ailleurs pour la plupart faites par des étudiants de Séoul, et qui représentent de manière extrêmement précise les organes sexuels, les rapports sexuels, toute la panoplie est là. Alors pourquoi c'est sur l'île de Jeju et pourquoi ils ont fait ça ? Les Coréens, encore une fois, société très traditionnelle.
Les Sud-Coréens.
Là, on pourrait dire les Coréens. On vit chez ses parents jusqu'au mariage, jusqu'au jour du mariage, et le soir du mariage, on vit avec son mari.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'amour avant, par exemple.
C'est ça.
Et on n'a pas beaucoup d'infos.
Et on n'a aucune information, aucune éducation sexuelle, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, on peut en parler, des problèmes graves, des problèmes d'avortement, des problèmes d'adoption d'enfants.
Ah, ça, on va en parler.
Mais pour le moment, vous vous retrouvez donc le jour du mariage, les deux époux terrorisés d'ailleurs, hein, les deux, qui doivent consommer la chose, et en général, ça se passe à l'île de Jeju, qui est une île semi-tropicale, qui est au sud, c'est un peu la Corse de Corée du Sud.
L'île de la tentation, c'est ça ?
C'est l'île de la tentation. Vous avez une myriade de petits hôtels, avec chacun le balcon, et donc le samedi matin ou le dimanche matin, après le mariage, vous avez tous les couples, enfin les maris anxieux qui fument des clopes et qui balancent leurs clopes par les balcons. Oui. Et puis donc ce parc avait été imaginé pour, j'imagine, donner des idées ou un petit peu apprendre les choses de la vie.
D'accord. Vous visualisez quelques positions.
Beaucoup de positions, c'est très précis. C'est très graphique.
Et malgré ça, le taux de natalité en Corée du Sud est très très bas.
Oui.
C'est ça.
Oui, ça les a pas aidés forcément.
En tout cas,
on fait peu d'enfants.
Ouais.
Alors, il faut aussi dire que la Corée est un pays qui évolue rapidement. Hein. Ce qu'on dit une année, aujourd'hui, les jeunes Coréens sont plus libérés. Il y a même des, enfin, ils savent les choses mieux que ce que pouvait le savoir leur aîné. Donc ça change beaucoup. Mais effectivement, on se reproduit très peu. Je crois que c'est le pays aujourd'hui qui, de l'OCDE, qui a le moins d'enfants par femme. Et ça va poser des problèmes énormes parce que c'est un pays dont la population va se réduire ou la population active se réduit. Ça tient à l'idée, probablement en partie, que l'espérance du développement commence à s'enfuir. Un pays, enfin, on n'a pas ces images en tête, mais après la guerre de Corée, 50-53, c'est un pays où il n'y a rien, qui est détruit. Mmh. Enfin, on est dans le 162e pays le plus pauvre du monde. Rien. On n'imagine pas quand on voit aujourd'hui Samsung, la réussite économique, ces gens.
Non, on dirait un pays à la pointe de tout.
Aujourd'hui, les Coréens sont par habitant plus riches que les Français. Mmh. Ils ont un revenu disponible plus important que nous. Et pourtant, ils viennent d'une misère absolue. Et donc, il y a eu cet espoir sur 3 ou 4 générations de progresser et de faire de l'argent, d'avoir une réussite. Aujourd'hui, les jeunes se disent, on est arrivé au bout. C'est plus pour nous. Donc, plus d'enfants, plus de projection dans la famille.
Anthony Dufour, vous publiez Portrait de Séoul par ceux qui vivent, c'est chez Ikari Édition. Et on va parler de l'avortement dans un instant en Corée du Sud. Comment ça se passe ? À tout de suite, les curieux.
14h-15h. Séoul, la capitale de la Corée du Sud, est comme n'importe quelle capitale occidentale. C'est-à-dire que le trafic routier y est terrible. Séoul est non seulement l'une des plus grandes capitales du monde, mais elle compte aussi une population particulièrement élevée au kilomètre carré.
Thomas Hugues.
À titre de comparaison, la population de Séoul est de 4048 habitants par kilomètre carré, tandis que celle de Paris n'est que de 3726 habitants.
Sidonie Bonnec.
La Corée du Sud est déjà mondialement connue pour être le leader du divertissement et de la culture pop, depuis les feuilletons sud-coréens jusqu'à la K-pop et le e-sport.
Sur RTL.
Et on découvre la vie quotidienne en Corée du Sud grâce à notre invité, le journaliste Anthony Dufour. C'est vrai qu'il y a des embouteillages même la nuit à 3h du mat.
Il y a des embouteillages tout le temps à Séoul. C'est une horreur absolue. C'est le culte de la voiture. Comme il faut afficher sa réussite économique, on doit avoir une voiture. Moi, je vois pas l'intérêt d'avoir une voiture dans une ville comme celle-là, d'autant que les transports en commun sont fantastiques. Ouais. Mais tout le monde a quand même une voiture. On a fait avec la voiture qu'on a achetée, donc avec ma femme à l'époque, on faisait entre 1000 et 2000 km par an. Vous voyez l'utilité d'avoir une voiture, hein, c'est quand même.
Mais il fallait faire comme le voisin.
Mais il fallait faire comme une voisine. Exactement. C'est très. Il fallait qu'on ait notre place de parking occupée par une voiture et que tout le monde sache qu'on ait une voiture. Et donc vous avez c'est infernal. C'est infernal les bouchons.
Et d'ailleurs, les Coréens. Et la pollution alors qui va avec, évidemment.
La pollution est colossale, surtout là, depuis 2-3 ans, ça devient vraiment incontrôlable. Et donc, il y a une espèce de politesse induite qui est qu'on ne sait jamais quand on va arriver à un rendez-vous si on y va en voiture et on ne vous en veut pas trop si vous êtes en retard. À l'inverse du Japon, c'est-à-dire qu'il y a un respect normalement de la règle qui est importante, mais on sait très bien qu'on peut appeler en disant on est dans un bouchon, personne ne va vraiment vous en vouloir.
Et quand on est piéton en Corée du Sud, il faut faire attention quand on traverse. Ça dépend de la voiture, c'est ça ?
Mais le transport, c'est s'il y a une chaîne alimentaire. C'est-à-dire que la voiture, la grosse voiture est tout en haut et le piéton est tout en bas.
D'accord.
Et donc, il n'a aucun droit. Le nombre de fois où moi je traverse en confiance sur un passage piéton, en me disant c'est un passage piéton, et là vous avez des voitures qui pilent et qui vous klaxonnent, mais qu'est-ce que tu fais sur un passage piéton alors que moi, voiture, j'allais passer. Et on est dans un pays où la sécurité routière et les accidents de ce type-là sont colossaux, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres, je crois qu'on était autour de 7 ou 8 000 morts pour un pays qui est beaucoup plus petit que la France et où on circule beaucoup moins en voiture qu'en France. Donc on a une insécurité totale, il faut surtout rester sur les trottoirs.
En fait, on traverse jamais, on reste toujours sur le même trottoir.
Alors,
c'est ça,
Séoul. Ils ont construit des passages souterrains, c'est-à-dire qu'il y a des passerelles. Et après, on traverse plus, et donc il y a des passerelles ou des passages souterrains pour traverser les rues, notamment les grands boulevards. Il faut surtout pas s'y risquer en piéton.
Alors la Corée, Sidonie le disait tout à l'heure, Corée du Sud, qui vient, alors là, c'est cette nuit, d'être le premier pays pays au monde à passer à la 5G. Alors déjà, la 5G, c'est quoi? C'est une nouvelle technologie, cinquième génération pour nos téléphones intelligents, nos smartphones, etc. Pourquoi ils voulaient être les premiers devant les États-Unis?
Eh oui. C'est la petite histoire, vous avez peut-être entendu cette petite histoire incroyable, c'est que c'était les États-Unis qui devaient être le premier pays à annoncer, être les premiers à utiliser la 5G. Et c'est Samsung qui fournit la technologie, qui la fournissait à l'opérateur américain qui devait l'annoncer aujourd'hui même. Et Samsung a prévenu les opérateurs coréens en disant... Il y a les Américains qui vont l'annoncer avant vous. Et ils devaient l'annoncer la semaine prochaine, les Sud-Coréens. Et donc, en catastrophe, à 23h, hein, à Séoul, vous imaginez, ils ont fait une conférence de presse à 23h pour dire non, c'est nous les premiers.
On est prêts.
Ils ont appuyé sur le bouton, ils ont lancé le réseau. Et vous avez toute la Corée qui est résumée. C'est-à-dire que la Corée, c'est un patriotisme, un nationalisme très fort. Et quels que soient les rapports de business, il était plus important pour Samsung que ses copains coréens soient les premiers à l'annoncer.
Alors évidemment, j'imagine que les Sud-Coréens ont beaucoup trinqué pour fêter ça, mais on trinque pas n'importe comment en Corée du Sud. C'est quoi le code à respecter, Anthony Dufour?
Alors, on boit beaucoup entre collègues. On peut boire en famille, on peut boire... Alors, il y a de multiples codes. Mais globalement, on va dire que plus votre rang est élevé dans l'entreprise, plus vous devez mettre votre verre le plus haut possible. Plus votre rang est inférieur, plus au moment de trinquer, hein, quand on fait chin-chin, donc évidemment on le fait, on dit kambé, hein, avec des grands kambé sonores. Et donc, si vous êtes le dernier arrivé, bah, vous devez mettre votre verre tout en bas, en tenant votre verre à deux mains pour dire, moi je suis rien, je suis tout en bas. Et si vous êtes le chef, vous mettez votre verre tout en haut.
Et si on fait une bourde, je sais pas, on lève un peu trop le bras, qu'est-ce qui nous arrive?
Eh ben, c'est pas très bien vu. Et alors, on peut faire une bourde inverse. C'est-à-dire qu'on peut faire la bourde de mettre alors qu'on est le chef, on va mettre sous une fausse humilité quelque part, on va mettre la main tout en bas pour dire, regardez, je vais vous servir, mes employés. Il y a une forme de paternalisme, hein, qui est très important.
La Corée du Sud, c'est une société qui est quand même étonnante et qui nous semble paradoxale. On vient de parler de la haute technologie. Et dans les rapports sociaux, par exemple, en matière d'avortement, on peut avoir le sentiment, et je dis ça sans jugement, mais que c'est un pays qui est vraiment en retard, quoi. Pourquoi?
C'est un pays qui a gardé un cadre extrêmement traditionnel, et je ne veux pas faire de parallèle, hein, mais sur le travail, sur la famille, sur la patrie. Ouais. Et c'est vraiment très traditionnel.
La loi en matière d'avortement, concrètement? On n'a absolument pas le droit d'avorter, ou on peut avorter à condition?
On n'a absolument pas le droit d'avorter. Donc il n'y a pas d'avortement en Corée du Sud, c'est illégal, les médecins n'ont pas le droit de le pratiquer. Donc ça se fait sous le manteau, c'est-à-dire que ça se pratique dans des conditions qui ne sont pas si mauvais, c'est-à-dire parfois des hôpitaux acceptent de le faire de manière clandestine. C'est aussi la différence entre la réalité officielle et la réalité intime. Tout le monde sait qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses, et à partir du moment où on n'en fait pas un affichage public, où les médecins vont pas dire chez nous on peut le faire, on va pas tellement les embêter. Donc il y a pas non plus une répression sauvage.
Et on manifeste pas en Corée du Sud, les femmes sont pas dans la rue pour demander la libération.
Il y a un nouveau féminisme depuis 10 ans en Corée du Sud, sur ces questions-là, sur ces questions de sexualité, sur ces questions d'accès à l'emploi, parce que regardez un gouvernement coréen, regardez l'Assemblée nationale, regardez les cadres de chez Samsung, il n'y a pas une femme, sauf les héritières des grands dirigeants. Confucius dit que les enfants peuvent transmettre eux-mêmes les pouvoirs de leurs aïeux. Mais c'est tout, les femmes n'ont pas accès globalement aux premières positions dans ce pays.
Avec un culte de l'apparence aussi que l'on va découvrir grâce à vous, Anthony Dufour. L'un de vos livres aussi, c'est Vivre la Corée, toujours chez Ikari. On va voir que la chirurgie esthétique est un business et presque une attitude, un mode de vie. À tout de suite, les curieux.
RTL.
Voici quelques-unes des habitudes les plus étonnantes du pays. Et cela commence à l'heure du déjeuner.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors sur cet étal, nous avons des crabes géants, des ormeaux. Mais ce que nous vendons le plus ici, ce sont les poulpes.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je vous les conseille vivants, ils sont vraiment délicieux.
Les secrets d'un pays fascinant et peut-être gourmand, qui sait, la Corée du Sud, avec le journaliste Anthony Dufour.
Moi j'adore le poulpe.
Oui, moi aussi, mais
pas vivant.
Anthony, vous avez vécu 7 ans en Corée du Sud, vous avez goûté, croqué un petit poulpe vivant comme ça avant d'aller au travail?
J'avoue, j'ai essayé. C'est mal, mais mais je n'ai pas insisté non plus. Je crois que le poulpe et moi, on était d'accord que ce n'était pas une expérience formidable.
C'était quoi le plat le plus terrible que vous ayez mangé en Corée du Sud, le plus étrange?
Alors, Je ne le sais pas, mais je sais qu'on m'a fait manger des choses terribles. Et en me regardant d'un coin de l'œil, ah, il va le manger quand même. Et bah, il y a une espèce de tradition. On montre sa force et sa virilité aussi à travers les choses qu'on montre. Autrement, il y a une culture militaire très forte. Hein. Il y a encore 18 mois de service militaire pour les jeunes hommes. Il y en a eu, il y avait 3 ans, il y a très peu de temps. Et donc ça forge des amitiés particulières et des habitudes de campement. Hein.
Donc des animaux, on vous a fait croquer des animaux bizarres, des insectes.
Des parties d'animaux qu'on ne devrait pas consommer, je pense, si vous voyez ce que je veux dire.
Ah oui.
Et donc le poulpe vivant, oui, c'est... mais tous les animaux sont acheminés vivants jusqu'au marché, même jusqu'au supermarché. Vous allez au supermarché, vous avez des aquariums pour choisir vos poissons.
On est sûr qu'ils sont de la fraîcheur,
oui.
Ça c'est bien.
Mais c'est pour garantir la chaîne du froid, exactement. Ouais. Comme en Chine, il n'y avait pas ça avant, donc ouais. On reste là-dessus. Et parfois, ça va jusqu'à la préparation. Il m'est arrivé de manger aussi du poisson vivant. C'est-à-dire que c'est une technique extraordinaire. Vous avez le poisson, il vous découpe les flancs, les filets.
Il bouge
encore et il vous regarde en faisant bop, bop, comme ça avec la bouche, et vous êtes en train de lui manger les flancs. Ça, c'est une expérience particulière. Mmh. C'est pas très antispéciste. Hein.
Et donc, effectivement, la Corée du Sud est aussi un pays où l'apparence joue un rôle important et la chirurgie esthétique est un business majeur. Mais pour toutes les générations, c'est ça, les jeunes adultes, on peut dire ça?
Oui, on va dire dès le baccalauréat, dès l'équivalent du baccalauréat. C'est souvent un cadeau de bac, c'est-à-dire que la réussite professionnelle, notamment pour les filles, mais c'est en train aussi de devenir un critère pour les hommes, est très liée à l'apparence. Je vais faire un résumé, tout le monde va me taper dessus sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment c'est caricatural, mais c'est quand même un peu ça. Une jeune femme, pour réussir, doit faire des super études. Ouais. Parce que des super études, ça va lui donner accès à une super entreprise. Et dans cette super entreprise, parce qu'elle est super jolie, elle va trouver un super mari.
Donc,
et après, elle travaillera plus. Parce que le jour où on est marié, on ne travaille plus, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants. Et donc...
Et être super jolie, c'est donc passer sur le billard, mais c'est quoi la beauté idéale pour les jeunes coréennes? Elles doivent ressembler à quoi? Elles sortent comment des blocs opératoires de chirurgie esthétique?
Alors, il y a une influence occidentale. Aujourd'hui, ils voient les films occidentaux, ils nous voient, ils nous voient aussi. Donc, la beauté plus ronde, ils trouvent qu'ils sont trop plats. D'une manière générale, sur le corps, sur le visage, les joues, ils sont trop plats et trop sans caractère.
Ils
donc on va arrondir,
quoi,
on va arrondir
pommettes,
le visage, on va arrondir les pommettes,
ouais.
Peut-être les lèvres, on va arrondir les seins aujourd'hui aussi, ça se fait les fesses également. On va arrondir, on va donner à tout ça une.
On débride les yeux.
On va rendre les yeux plus ronds. On va arrondir tout.
Et mais ça, c'est une souffrance quand même. Est-ce que les jeunes sont heureux en Corée du Sud ou est-ce qu'il y a, je sais pas, un taux de suicide qui est particulièrement anormalement élevé dans ce pays?
Alors, on se dit que c'est une société extrêmement attractive, moderne, où tout marche bien. 97% des jeunes coréens, dans un sondage récent, disent qu'ils veulent quitter leur pays. Et vous avez des livres et aujourd'hui des mangas, des films qui sont faits sur ce thème. Tous les jeunes, quasiment tous les jeunes coréens veulent quitter ce pays, non pas parce qu'ils vont pas y réussir, mais parce qu'ils vont y réussir de manière inférieure à ce que leurs parents espèrent et de manière inférieure à ce que finalement le rêve de réussite parfait peut produire. Donc pour échapper au rêve et pour échapper aux contraintes du rêve, ils préfèrent s'en aller.
Merci infiniment,
c'est
un plaisir de vous avoir au micro de la curiosité, Anthony Dufour. Vous publiez Portrait de Séoul, Séoul par ceux qui y vivent et vivre la Corée chez Ikari Édition. À bientôt.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.